Et Antoine, on commence par ce coronavirus chinois qui affole tout le monde et qui a déjà fait 17 morts.
Oui, 17 morts et plus de 500 personnes infectées. On sait que ce virus baptisé 2019-nCoV appartient à la famille des coronavirus, comme le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, qui avait fait plus de 650 morts en 2003 en Chine. Alors que plusieurs autres cas de ce coronavirus ont été détectés en Asie du Sud-Est et un aux États-Unis, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore, à l'heure où je vous parle, rendu sa décision sur la déclaration ou non de l'urgence de santé mondiale, alors que les scientifiques chinois commencent, eux, à soupçonner une espèce de serpent d'être l'animal réservoir du virus. Les autorités chinoises prennent des mesures de sécurité. Après la ville de Wuhan, foyer primaire du virus où vivent plus de 11 millions d'habitants, les villes de Huanggang, 7 millions d'habitants, et Hezhou, plus d'un million d'habitants, ont également été placées en quarantaine. Plusieurs des plus grandes villes chinoises, dont Pékin, Hong Kong ou Macao, ont quant à elles annulé les célébrations du Nouvel An chinois ce samedi 25 janvier pour empêcher une propagation du virus. De quels moyens dispose-t-on justement pour endiguer la propagation d'un tel virus et quelles sont les priorités des scientifiques pour en limiter les effets? Écoutez Jean-Claude Manuguera, qui est virologue et responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur.
Pour que une intervention purement sanitaire soit efficace, en absence de vaccin, parce qu'on n'aura pas de toute façon pour l'instant et pendant longtemps, c'est de savoir si les personnes qui sont infectées sont contagieuses avant d'être malades ou pas. C'est le cas, par exemple, du virus du SRAS, c'est le cas des infections par le virus Ebola. Et donc, dans ces cas-là, en fait, isoler les malades permet d'interrompre les chaînes de transmission. Et ça a été réalisé avec succès en 2003 pour le SRAS et plus récemment aussi pour Ebola. C'est un caractère de cette infection qui sera très important de déterminer pour savoir si ce type de lutte sanitaire a des chances d'être couronné de succès. Maintenant, la deuxième chose, c'est que non seulement il faut interrompre les chaînes de transmission entre les individus, les transmissions interhumaines, mais il faut aussi identifier la source de l'infection, parce que si on arrête les transmissions interhumaines et qu'on a à chaque fois des réintroductions à partir de la source animale à identifier, eh bien on sera confronté à chaque fois de nouveau au même problème, on sera obligé de repartir à zéro. Donc ce qui est très important maintenant, c'est d'essayer de savoir quelle est la source animale de cette infection nouvelle chez l'homme. Alors le virus, lui, est complètement identifié, puisque nos collègues chinois ont mis ses données dans le domaine public très très vite. On a la séquence totale du génome viral. Maintenant, nous avons beaucoup à apprendre sur sa réplication, sur, par exemple, quel est son récepteur, parce que ça va influencer la direction des recherches vers le réservoir animal. Ça va aussi indiquer quelles sont les cellules cibles potentielles de ce virus. Il semblerait, d'après une étude faite par nos collègues de l'Institut Pasteur de Shanghai, in silico, puisqu'ils n'ont pas le... c'est une recherche qui a été faite relativement rapidement. Il semblerait que la protéine qui s'attache au récepteur de ce nouveau virus reconnaîtrait le même récepteur que celui du SRAS, à confirmer de manière expérimentale, bien sûr.
Voilà, et on en parle, on fait un point complet demain sur l'état de nos connaissances et des recherches autour de ce coronavirus. Ça donne dans notre émission, dans notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Science Advances, les champignons seraient apparus sur Terre plus tôt que ce que l'on pensait.
Oui, l'étude menée par une équipe de l'Université libre de Bruxelles date cette apparition entre 715 et 800 millions d'années. C'est 300 millions d'années plus tôt que les estimations avancées jusqu'alors. L'étude s'est portée sur des mycéliums, des réseaux de filaments interconnectés microscopiques, découverts dans des roches anciennes provenant de la République démocratique du Congo. À partir de l'analyse moléculaire de ces restes, les chercheurs ont pu détecter des résidus de chtinine, un composé très résistant de la paroi des champignons et qui est propre à ce groupe. Selon les responsables de l'étude, cette découverte invite, je cite, à revoir la chronologie de l'évolution des organismes sur Terre. Mais ça n'est pas tout. Les chercheurs avancent également que la présence de champignons dans ces roches situées à l'interface entre zone terrestre et aquatique ferait des champignons des partenaires importants des premières plantes à avoir colonisé la surface terrestre il y a environ 500 millions d'années.
En bref, on a enfin réussi à modéliser l'étoile Altaïr.
Altaïr, c'est cette étoile située à 17 années-lumière de la Terre qui fait partie de la constellation de l'Aigle et qui intrigue depuis longtemps les astronomes en raison de sa très grande vitesse de rotation, plus de 100 fois supérieure à celle du Soleil, qui fait que le rayon polaire de l'étoile est 20% plus petit que son rayon équatorial. En raison de cet aplatissement centrifuge, la modélisation d'Altaïr était impossible suivant les approches classiques de la physique stellaire qui utilise comme norme la symétrie sphérique. Des chercheurs ont donc décidé d'utiliser deux dimensions d'espace pour modéliser Altaïr. Les résultats de cette modélisation présentés dans la revue Astrophysics and Astronomy ont permis d'évaluer la masse d'Altaïr, 1,86 fois celle du Soleil, et de donner un coup de jeune à l'étoile, alors que les modèles sphériques lui donnaient 1 milliard d'années. Ce nouveau modèle estime l'âge d'Altaïr à 100 millions d'années.
Et enfin, nos ancêtres néandertaliens escaladaient des volcans peu de temps après leur éruption.
C'est ce qu'ont révélé des empreintes de pas préservées dans la cendre volcanique non loin du volcan de Roccamonfina dans le sud de l'Italie, un volcan actif entre 385 000 et 325 000 ans, soit bien avant l'apparition d'Homo sapiens. En 2003, des chercheurs de l'université de Padoue ont trouvé 56 empreintes de pas, un nombre qui vient de se porter à 81 selon l'étude récente dans le Journal of Quaternary Science. La majorité de ces empreintes sont en direction de la descente, mais parmi les nouvelles découvertes, certaines vont dans le sens de la montée, et ce, juste après une violente éruption ayant provoqué un écoulement pyroclastique. On ignore les raisons précises pour lesquelles ces humains préhistoriques arpentaient les flancs du volcan. La découverte d'outils taillés sur le site suggère que le volcan aurait pu être une source pour la production lithique.
Merci beaucoup Antoine.